Salut les joueuses, salut les joueurs. Nous sommes en février 2025 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Caducé et je suis accompagnée de Cyrus. Bonjour Cyrus.
Salut Caducé.
Comment vas-tu?
Super bien.
Et nous accueillons aujourd'hui Anthony Perron. Bonjour Anthony.
Bonjour à vous deux.
Bonjour Anthony.
Nous te connaissons comme auteur, mais tu es également récemment devenu responsable de la création chez Simone. Tu vas pouvoir nous parler de tout ça au cours de cette interview. Avant de commencer, on a une petite tradition avec des questions sous forme d'un fil rouge auquel tu vas pouvoir répondre si tu es prêt.
Je suis absolument prêt.
Alors Anthony, pour toi, quel est l'as d'or du jeu pour rire avec les potes?
Top 10, mais c'est pas un jeu de cette année.
Ah non, mais c'est pas un problème ça.
Ok, top 10.
C'est l'as d'or tout en confondu.
Ouais, top 10 de loin. Ouais.
Ok.
Quel est l'as d'or du jeu qui t'a fait le plus fumer le cerveau?
J'avais beaucoup aimé à l'époque un jeu qui s'appelait Les Hauts Fourneaux.
Ok, ouais.
Furnace en version originale.
D'accord. Et quel est l'as d'or du jeu auquel tu ne veux plus jamais rejouer?
Oh, elle est dure celle-là. Ah, ok. Comment il s'appelle le jeu de chez Ludonot? Living Forest.
Okay, ouais.
Living Forest, je pense que je suis passé à côté. Je pense que c'est un très bon jeu, mais je suis vraiment passé à côté.
Ah, ok.
Quel est l'as d'or du jeu auquel tu penses encore 3 jours après la fin de la partie?
Balatro. C'est horrible, elle est horrible cette réponse. Elle est horrible cette réponse, mais je vais dire Balatro.
Ouais. L'addiction Balatro.
J'ai le droit de le dire, Balatro.
Ah bah écoute, si tu veux, c'est vrai qu'on l'a dit. C'est on a dit jeu, on n'a pas précisé jeu de société.
Avez, il fallait préciser en début d'interview.
Donc ouais, alors pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, c'est un jeu vidéo.
Ouais, mais c'est un jeu vidéo qui ressemble beaucoup à un jeu de société, puisqu'il est vraiment inspiré du deck building et du poker, ce genre de choses-là.
Et pour finir, quel est l'as d'or du jeu le plus moche?
Wow, il y a énormément de jeux qui sont très moches.
Oh là là, le premier qui te vient à l'esprit. Wow. Ou si vraiment t'en as un qui te fait beaucoup mal aux yeux.
Tu sais, beaucoup de gens disent que Skyjo est très moche. Et donc je vais dire Skyjo, mais je le pense pas vraiment en fait.
Il y a un mais dans ta
réponse. Ouais, je le pense pas vraiment. Je pense que c'est assez intelligemment fait en fait. Tu sais, c'est moche.
Ah, je croyais que c'était il y a un mais parce que tu voulais en citer un autre, non?
il y a sûrement plus moche, ouais, il y a sûrement plus moche. Mais non, je vais dire Skyjo parce que effectivement, je pense que j'aurais pas fait ça si j'avais eu le jeu entre les mains. mais ils ont eu raison, c'est eux qui ont eu raison.
Ok, merci du coup pour ces réponses.
Alors comme on le disait dans l'intro, on te connaît comme auteur de jeu. En remontant un petit peu ce que tu as fait, donc Forms, c'était le premier jeu que tu as eu édité, c'est ça?
Forms, c'est bien le premier jeu qui est sorti en boutique, en tout cas au début du Covid, en plein milieu de la première vague du Covid, ouais.
Tu peux un peu nous parler de ton histoire d'auteur de jeu, de ses débuts, de façon succincte, mais
Comment t'es venu déjà à créer des jeux et du coup en particulier Forms?
L'histoire, elle est hyper simple. En 2017, je commence à jouer parce que j'ai un copain avec qui je fais de l'escalade qui aime les jeux et il s'ennuie. Et il me dit, faut que tu joues avec moi aux jeux de société. Je dis, non, je pense que les jeux de société, c'est nul. Moi, j'aime les jeux vidéo. Et il me force. Et puis, un jour, il organise une partie de Mysterium. Et donc, je joue à Mysterium. Et bah, j'ai trouvé ça génial. J'ai adoré. Et ça m'a de suite donné envie d'aller en bar à jeux. Et surtout, ça m'a donné envie de créer de suite.
Ah ouais.
Et donc, je me souviens, c'était à Noël, pendant une nuit, j'ai rêvé de cartes qui se superposaient sur les coins. Et je me suis réveillé le matin, parce que c'est les rêves du petit matin, là. Mmh. Et je me suis réveillé sur un coin de table, j'ai dessiné les cartes et je les ai superposées. Et en fait, ça marchait. Et ben, mon premier jeu, qui est pas sorti en premier, mais mon premier jeu était né, c'était le futur Knock Knock Dungeon chez Blue Orange.
D'accord, ouais.
Ouais. Ça, c'était donc la première créa. Mais vu que c'était Blue Orange et que les process sont très longs, le jeu est sorti après Forms, où là ça a été très 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 rapide effectivement. Je voulais faire un jeu de dessin pour les gens qui n'aiment pas dessiner, qui s'explique en 30 secondes, et puis le jeu est né en une semaine quoi.
Et tu l'as présenté, c'était chez
Yoka by Yoka, Tsume, ça, ouais. Un éditeur qui n'existe plus, je crois.
Oui, d'ailleurs.
Ouais. Mmh, je crois. Et ça a été, oui, parce que je connaissais vraiment personne du milieu du jeu. Je viens pas du monde du jeu. Tu sais, t'arrives là, tu connais absolument personne.
Mais du coup, comment t'as présenté ton jeu? T'es allé dans des festivals?
Ouais, j'ai fait un premier fige et j'ai fait le off avec ce fameux jeu qui sortira chez Blue Orange, ce jeu de cartes. D'accord. Qui se recouvre par les coins là, Knock Knock Dungeon. Et donc je fais le off et là super, il y a une queue pour jouer au jeu, il y a une file d'attente et il y a ma compagne de l'époque qui reconnaît Bruno Catala qui dit attends je vais le chercher, on va le faire jouer au jeu. Je dis bah non, on le connaît pas et tout. Elle me dit je m'en fous, c'est un homme comme un autre. Et donc elle l'attrape, elle était incroyable. Elle l'attrape comme ça, elle lui dit vous pouvez venir jouer au jeu de mon chéri. Et donc il est venu jouer au jeu, il s'est assis, et je me souviens très bien, il a pas aimé le jeu, il a dit j'aime pas trop ton jeu. Mais il m'a donné sa carte et il m'a dit si tu veux tu m'appelles lundi.
Ah ouais.
Et c'était la deuxième grosse étape parce que j'ai pu commencer à apprendre des choses sur le jeu de société, j'ai pu faire un autre jeu qui était Run 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 et ça m'a fait faire un pas en avant.
D'accord.
Ouais, et c'est tout s'est passé à ce fige là parce que c'est à ce même fige que le jeu avec les cartes a été signé chez Blue Orange et Yo-kai by Tsume le voulait, donc j'avais déjà un contact avec eux et c'est comme ça que Forms est parti chez eux après. Ouais.
D'accord. Et t'as jamais fait deux jeux avec Bruno Catala? T'as été un peu parrainé finalement par Bruno ou...
On a fait Run 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 ensemble.
Run, run, run.
Ah si, d'accord.
Et oui, on a sorti. Moi. Run Run Run. Non, mais ta remarque finalement, elle a du sens parce que Run 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 est quand même passé sous les radars. donc ça a du sens finalement ce que tu dis. Je veux dire, je comprends ce que tu veux dire. Mm. Mais oui, on a fait un jeu ensemble. On n'a pas eu d'autres occasions parce que tout le monde est très pris, etc. Mm. Mais c'était assez cool, c'était assez intéressant. Ouais.
Ok.
Et tu travailles beaucoup en co, Tora?
Ouais.
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 Ça a été aussi un premier pas vers cette façon de faire, cette façon de créer le co-autorat, ouais.
Tu sais, souvent d'ailleurs, j'ai remarqué que même s'il y a qu'un seul nom sur les boîtes, on passe tellement, nous, auteurs de jeux, on passe tellement de temps à faire tester nos jeux à d'autres auteurs qui sont pros, à des testeurs qui ne sont pas forcément pros, que finalement, très honnêtement, je suis pas sûr qu'un jeu, ça soit autre chose que du co-autorat tout le temps, avec un milliard de mains dedans, quoi. Donc parfois effectivement il y a une main qui est plus présente que l'autre, donc c'est le co-autorat comme tu l'entends. Par exemple, tout à l'heure je parlais d'un autre jeu que j'ai créé qui s'appelle Animètre, que j'aime beaucoup. Je me souviens qu'une des idées d'Animètre qui a sorti le jeu parce qu'il était un peu embourbé à un moment donné, c'était Romain Caterjean, qui est un très bon copain à moi, qui l'a trouvé. Il est pas crédité dans le jeu. Et moi je pourrais te citer un paquet de jeux où j'ai eu une idée que j'ai donnée aux copains et qui ont sorti le jeu, tu vois. Donc bon. La question du co-autorat, elle n'est pas une question parce qu'on est tout le temps en co-autorat et parfois sur un contrat, il y a deux noms qui apparaissent. Ouais.
Mmh. Oui, c'est juste une officialisation sur le contrat de quelque chose qui te semble être une réalité en fait dans la création, dans ton process toi de création.
C'est le moment où la personne avec qui a échangé avec toi t'a donné une idée qui te semble tellement forte que tu te dis bon, il peut pas ne pas être sur la boîte.
D'accord.
Et ouais. Ça c'est difficile d'ailleurs à juger parce que ça commence où, ça s'arrête où, ouais, changer une phase de dé, est-ce que c'est assez? C'est hyper dur à jauger.
Ah, bien sûr, ça se mesure pas, quoi.
Non. Ouais. Et pourtant, on doit le mesurer.
Ah, tiens, dans Animètre, justement, tu me parlais d'Animètre. Donc ça, c'est un jeu d'estimation, pas tant de 5 ans. Tu nous disais hors micro que c'est un jeu que t'affectionnais particulièrement dans ta création.
Oui, parce que je sais pas si j'ai un style, mais j'avais beaucoup aimé la proposition que je n'avais vue ailleurs. Donc c'est une règle au centre de la table. On va jouer à notre tour, chacun on a une main de cartes et on va devant nous créer des tours de cartes. On peut créer jusqu'à 3 tours de cartes et on essaie de faire en sorte que ces tours de cartes, à la fin de la manche, le sommet de chacune de nos tours, il atteigne une des zones de l'arbre qui était au centre de la table. Et donc on va tous prendre cet arbre, on va le mettre à côté de nos tours et on va regarder si le sommet de nos animaux, il arrive à rentrer et à manger des pommes. Et c'était super parce que il y a un mode coopératif qui marche très bien pour les enfants. Il y a des réglettes qui se retournent, il y a des petits effets, il se passe plein de choses. Et ça a été développé par un éditeur russe qui s'appelle Lifestyle Board Games.
C'est ça, Lifestyle. Hein.
Ouais, c'était pareil, c'était fin de Covid. Ouais.
Après, il a peut-être pas non plus été gâté graphiquement pour le coup, le jeu.
Ah, toi tu trouves, toi tu es pas trop fan.
Non, pas trop, non.
Ah, intéressant.
Non.
Moi, j'avais adoré les animaux. Ah ouais,
je trouve que généralement, Lifestyle, ils font des trucs, hein. Je trouve que c'est un peu suranné, quoi.
Ah ouais. Tu vois. Oui, je comprends. Effectivement. Oui. Et en plus, tu vois, on parle entre français. Et moi, vivant à l'étranger, j'ai l'impression qu'il y a une vraie culture du graphic design. Ouais. Tu vois, du côté très artwork dans le jeu de société. En France en particulier. Bon, il suffit d'aller à Essen pour le voir, tu vois. Les jeux allemands.
Ouais, c'est clair.
Ah, c'est plus joli qu'avant. C'est plus joli. Faut pas que je dise des trucs comme ça.
Non, mais c'est une vérité. Enfin, je pense, voilà. Après, les Allemands ont un style graphique qui leur correspond. Ça répond à leur marché aussi, tu vois. Mais, effectivement, vu l'international, tu fais OK, c'est un graphisme allemand.
Marqué. Ouais, c'est ça. Et en plus, c'est vrai que c'est un jugement de valeur qui n'a aucune valeur puisque, bah, je veux dire, moi, je trouve que c'est pas joli, mais en fait, bon, bah, oui, ça ne vaut rien, quoi.
Ouais, ça répond à des canons différents, en fait.
Ouais.
Très subjectif.
Ouais. OK. J'aimerais qu'on parle aussi de Dive, un jeu que tu as créé avec Romain Catardian, pour le coup, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais. C'est un jeu d'observation, d'estimation, alors vraiment d'observation pour le coup, parce qu'on a des feuilles transparentes qui s'empilent. On va essayer d'estimer quelle profondeur se trouve un dessin, un motif, hein, des tortues, des requins, etc. Assez original quand même pour le coup.
Ouais, Dive, c'est intéressant qu'on l'évoque maintenant parce que je pense que c'est l'étape numéro 2. C'est le moment où je me rends compte être game designer, c'est avoir des idées, mais c'est pas suffisant. Et Dive, bah, je vais être très, très direct, hein. Je souffre de mon manque d'expérience, je pense. Pas de celui de Romain peut-être, mais en tout cas du mien. Et ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, c'est un concept que je trouve toujours incroyable. Je le trouve toujours assez fou. Mais, j'aimerais bien un jour le ressortir et juste trancher un petit peu dans les 2-3 lourdeurs qu'il y a de règles, etc. pour avoir une expérience pure. Parce que effectivement, Sidon avait fait un super travail aussi d'édition. La couve, elle est incroyable. Matos était fou. Ça avait vraiment bien bossé. Mais j'avais péché en tout cas un petit peu par un manque d'expérience et manque de compétences dans le game design, je pense. Mais expérience incroyable. Et c'est d'ailleurs Dive qui m'a lancé sur ma vie en Asie. Les gens qui nous écoutent ne le savent sûrement pas parce que c'est pas intéressant. Mais j'habite en Asie.
Et, à Taïwan.
Taïwan. Et Romain habitait à Taïwan à cette époque-là. Ah, okay. On s'est rencontrés au moment où je suis en rendez-vous avec Yoka sur Forms et les mecs de chez Yoka me disent tu devrais rencontrer un gars, vous allez super bien vous entendre. Et il me présente Romain, on se serre la main. Il était en train de leur montrer un jeu qui s'appellera Action, qui a eu une vie très courte à la fin de Yoka. Et Romain me dit viens me voir à Taïwan et on se montrera des protos, etc. Et moi je rêvais de vivre au Japon, donc je dis avant d'aller vivre au Japon, je vais passer voir Romain à Taïwan. Je passe voir Romain à Taïwan. Il s'avère que lui et moi on est de la même ville natale, on est tous les deux nés à Toulon, donc c'est rigolo. Et je vais le voir à Taïwan. Et en fait, je lui montre le proto de Dive, qui était un jeu de rallye à l'époque, un jeu de rallye automobile.
Ok. Ouais. Alors là, il va falloir m'expliquer.
Ah oui. Alors expliquer le passage du jeu de rallye au jeu en profondeur.
Et donc, on a développé Dive ensemble. Et l'histoire de Dive, elle est très simple, c'est que mon papa est un ancien pilote de rallye, de course automobile, un ancien pilote de rallye. Mmh. Et je suis très attaché à essayer de faire vivre l'histoire de ma famille. En tout cas, les parties de l'histoire de ma famille qui me plaisent. Tu vois. Mmh. Je pense que voilà. Et j'avais très envie de faire un jeu sur le rallye. Et donc je me disais mais comment on pourrait faire du rallye avec des cartes et avec un jeu de plateau, tu vois. Et je me suis dit un rallye c'est quoi? C'est une voiture qui avance et des virages qui apparaissent devant toi au fur et à mesure que tu retires les trucs. Et je me suis dit je prends un deck de cartes, je retire les cartes et au fur et à mesure il y a la route qui apparaît. Et après je me dis mais si c'est transparent et qu'il y a des arbres et qu'il y a du brouillard, on va voir la route apparaître petit à petit. Et puis finalement la verticalité fait qu'on descend, on regarde dans l'océan, etc. Et le truc rigolo, donc je vais diverger. Hein. Animètre, qui est un jeu avec un ruban qu'on mesure. Ma maman est une ancienne couturière.
Ouais. D'accord.
Du coup c'était le geste, il va dans les deux sens. Quoi.
Ok. Ok, du coup, je comprends mieux le lien. Ok. Du coup, je suis curieux de voir la version Dive Rally maintenant.
Ça ne marchait pas. Je t'assure que ça ne marchait pas.
L'année dernière, tu avais une belle actualité avec Courtisan en particulier, qui a été très apprécié.
Mmh.
1, 2, 3, Faufile-toi aussi.
Et Backstories aussi.
Backstories.
Mmh.
Tu peux nous parler un peu de ces jeux-là?
Ouais, l'année dernière, je pense que c'est le jalon d'après. Tu vois, on parlait de Dive. Et l'année dernière, c'est le jalon d'après. C'est le jalon où je comprends un peu mieux ce que je fais. Tu sais, je fais un peu moins les choses au hasard. J'ai toujours la même envie, c'est quelque chose de très affectif chez moi dans la façon de travailler, quelque chose de très émotionnel. Mais je commence à avoir un peu plus d'outils pour développer. Et aussi, bah, je commence à connaître plein de gens. Le microcosme français est un vrai microcosme. Donc, c'est assez rapide et assez facile de se faire plein de copains. Et donc, bah, Jules devient un copain. Jules Messot devient un copain. Romaric Gallonier devient un copain. Je passe du temps à Toulouse. Et puis, bah, ça fait germer plein d'idées. Et c'est vrai que ces trois jeux, je trouve, qui représentent l'étape d'après. Et alors, j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres, mais ils représentent bien l'étape d'après où on commence un peu à maîtriser ce qu'on veut faire. Tu vois, on a une intention. Courtisan, bah, c'est vraiment, ça va dans l'intention. Backstories aussi va dans l'intention. Et un, deux, trois fois, file-toi également.
C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a quelque chose de plus raffiné dans le game design des jeux. Plus fini, mais peut-être un peu moins fou aussi. Alors, sauf pour un 2-3 faux victoires, qui pour moi vraiment a pris vraiment un parti pris assez audacieux. D'ailleurs, tu peux nous parler peut-être de d'où l'idée est venue d'un 2-3 faux victoires. Donc un 2-3 faux victoires, je rappelle, c'est un jeu un peu de cache-cache sur table, quoi, à partir de 6 ans.
En fait, l'idée, elle est très simple. L'idée d'un 2-3 faux victoires, c'est si on mélange un 2-3 la lune et le soleil, c'est comme ça qu'on dit.
Un, deux, trois soleils,
pardon.
C'est vrai qu'il y a des expressions différentes selon les pays.
Ouais, et selon les régions aussi de France, je pense. Parce que moi, quand j'étais petit, on jouait un, deux, trois, la lune et le soleil.
Ah ouais.
Et donc, si on mélange un, deux, trois, soleil et cache-cache, qu'est-ce que ça fait? La réponse, c'était un plateau de qui est-ce, parce qu'il y avait chez moi, dans ma coloc à Marseille à l'époque, un plateau de qui est-ce. Et en fait, j'ai mis tous les personnages debout et j'ai caché un lapin de Dixit derrière et j'ai demandé à un de mes colocs de s'asseoir en face et je le faisais bouger. En fait, j'avais remplacé les personnages par des buissons de couleurs. Bah, le premier pas, il était déjà fait. Puis ensuite, le jeu a été mis dans le placard pendant 2 ans, je pense. Et Fabrice Chazal, qui est le co-auteur sur le jeu, il m'a dit, moi, j'avais adoré cette idée. Tu veux pas la ressortir? On la travaille ensemble. Toi, tu dis un peu moins fou. Moi, personnellement, je pense que Backstories, l'idée, elle est folle. Le concept de se dire, tiens, on va supprimer cet intermédiaire de aller chercher dans un livre le script. On va aller le chercher vraiment à l'épure la plus totale la possible. C'est-à-dire, derrière la carte, il y a déjà la réponse à ce que toi, tu vas mettre comme input. Donc, quelque chose de très jeu vidéo là-dedans. Moi, je trouve que c'est pour le coup un move assez fou encore. Je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi, ça... Alors, Courtisan, non, pour le coup, effectivement, c'est plus un exercice de style, Courtisan. Il y a vraiment ça derrière.
Tu peux développer sur ce que tu appelles un exercice de style sur Courtisan ?
Courtisan, c'est très simple. C'est Romaric et moi, on passe presque une semaine ensemble. Je vais en résidence chez Romaric. Et à un moment donné, on avait créé un autre jeu. Et on en a marre, on est fatigué. Il ouvre une bouteille de whisky qui s'appelle Kaiji. Et je me souviens, je lui dis... Il y a un truc que j'aime, c'est le côté très épuré de venir regarder des gestes qu'on fait autour de la table. Et par exemple, t'as remarqué que un geste commun, c'est il y a des espaces de jeu sur une table, tu vois. Il y a le mien, il y a le tien, il y a le central. Ce sont un peu les trois espaces les plus courants. Et cette discussion, elle nous mène à évoquer le fait que et si on faisait un jeu où à notre tour, on utilisait tous ces espaces de jeu là. Et le jeu il est né parce qu'en fait dans Courtisan t'as 3 cartes en main. Alors à l'époque il y en avait 4 parce que t'en gardais une pour le tour d'après. T'as 3 cartes en main, t'en gardes une, t'en donnes une à un autre joueur et t'en mets une au centre de la table. C'est pour ça que je passe d'exercice de style parce qu'on est sur vraiment une approche plus challenge mécanique. Et ensuite comment on fait vivre ce challenge mécanique là de la manière la plus simple et la plus pure possible pour qu'on ne passe pas à côté tu vois de ce geste là, qu'on vive vraiment ce geste là. Et après un éditeur de fou qui travaille incroyablement bien, Catch Up Games. Et ouais, voilà, Courtisan, c'est super, quoi.
Non, c'est intéressant que tu développes parce que tu vois, effectivement, on comprend du coup que t'es parti d'une idée. Enfin, vous êtes parti d'une idée qui est devenue votre cadre. Voilà, c'était le cadre sur lequel vous vouliez travailler, quoi. Oui. Ça, c'est une vraie démarche d'auteur. Ouais, clairement, ouais. Enfin, toi, c'est pour débattre autant qu'on veut. Est-ce que dans le jeu de société, voilà, c'est un art. C'est une idée que tu prends et que tu vas travailler vraiment dans cet espace-là.
Ouais, je vais raconter un truc. Je sais pas si c'est ok. Bah, je vais le faire quand même. Il y a quelques années, j'étais hyper frustré parce que, bah, par exemple, je parlais avec Bruno Catala, j'avais rencontré Bruno Feduti, et je posais souvent la question à ces auteurs expérimentés. Mais c'est quoi la recette, tu vois? Comment vous faites, quoi? Et quand ils me répondaient, il y a pas de recette, quoi. On fait. J'avais l'impression qu'ils voulaient juste pas dire leur secret, tu vois. Parce que s'il y avait un secret, est-ce que tu le dirais vraiment, tu vois? Est-ce que tu le partagerais ou pas?
Du coup, peut-être qu'il y en a un quand même.
Bah oui, ouais, je sais pas, tu vois.
On le saura pas.
Est-ce qu'à un moment donné, il y a un truc que t'as digéré, que t'as compris et qui fait que tu peux le dupliquer et tu peux faire plein de jeux parce que t'as digéré à intégrer quelque chose? Et si tu es capable de le verbaliser, tu pourrais créer, par exemple, plusieurs centaines de jeux, tu vois. Et ça m'énervait, en fait, de pas voir ce truc-là. Et j'ai finalement trouvé une réponse, qui est la mienne, c'est de dire, je pars d'une idée forte, et je fais en sorte de jamais trop m'en éloigner. Bah, Backstory, c'est l'idée des cartes à trous. Animètre, c'est l'idée du ruban de couture. Dive, c'est l'idée des tuiles transparentes au travers desquelles on regarde. Courtisan, c'est l'idée de ces trois cartes, de jouer de l'espace de jeu. Donc chacun des jeux, il part d'une idée forte et il essaie de pas trop s'en éloigner.
Moi, j'avais noté une certaine originalité globalement quand même dans tes jeux. Tu vois, effectivement, une idée. Je l'avais pas verbalisé comme ça, mais du coup, tu vois, en échangeant, c'est assez intéressant. Et effectivement, il y a une idée, il y a un truc qui est assez fort, qui crée une originalité dans le jeu. Et puis après, bah voilà, ça va se raccrocher à un style de jeu plus ou moins existant, soit pas trop. Hein. Forms, oui, ça se rapproche d'un jeu de, ouais, c'est un jeu de, comment dire, de dessin. Hein, donc ça se rapproche d'un genre existant. Dive, en final pas trop, tu vois, c'est quand même un peu à part. Pareil, il y a 2-3 Fufu-toi, ça s'écarte aussi pas mal. Pax Tourist, ça arrive à se raccrocher à un genre malgré tout. Donc on voit effectivement, non, c'est intéressant, toi, cette discussion, parce que cette idée forte, moi, si tu peux me permettre de donner un conseil, je pense que c'est un truc qu'il faut garder, il faut réussir à avoir une idée forte et originale, quoi. Et c'est là que tu peux créer des trucs vraiment, je pense, intéressants.
Je suis d'accord avec toi. Après, sur les jeux qui vont sortir, il y a toujours ce truc-là, j'ai l'impression. Peut-être pas sur Lone Wolves, Terre de Loup, qui est sorti en français cette année là, parce que c'est un jeu sur lequel je suis co-auteur, mais co-auteur après coup, c'est-à-dire, tu sais, j'arrive, j'ai le jeu dans les mains.
Il y a déjà une première version en fait,
qui s'appelle Four Clans Conflict, que j'ai signé en tant que chef de projet chez un autre éditeur chez qui j'ai travaillé, qui s'appelle Wonderful World Board Games, qui est l'éditeur de Locomomo. Et on a le jeu entre les mains, et moi je dis putain, c'est cool, mais il manque un truc. Et là, c'est une autre façon d'être co-auteur, tu vois. Mais l'idée forte finalement, elle existe déjà, parce que Four Clans Conflict, c'est quoi? C'est Dupli mélangé à Battle Line, tu vois.
Ouais.
C'est déjà une idée forte autour de laquelle tu veux pas trop t'éloigner.
Et du coup, quel a été ton apport justement sur Lone Wolves?
Faire en sorte qu'à la fin de la partie, t'aies envie d'en faire encore au moins une ou deux ou trois ou quatre ou cinq.
Alors c'était quoi la recette?
La recette, c'est de te faire sentir que le jeu, il en a assez sous la pédale, pour que toi, à la fin, tu te dises punaise. Et si j'en refaisais une et que j'avais un petit peu plus de chance? Mais surtout que je tentais les choses différemment, en m'adaptant différemment au jeu de l'autre ou en tentant une autre façon de jouer. C'était un jeu qui était très très pur, c'était juste un deck de cartes et un battle line, donc un jeu comme Schotten Totten en France, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Donc il y a une ligne, je joue une carte de mon côté, tu joues une carte, et on essaie de gagner des lieux en forme jeu de pli. Et moi je suis venu rajouter, alors du coup ça en fait une expérience beaucoup plus experte, effectivement. Et c'est la première fois que moi je me rapproche de ce genre de jeu-là. Mais si les auditeurs, ou si vous avez l'occasion de mettre la main sur le jeu, vous verrez que c'est quand même un jeu qui est expliqué très rapidement. Il y a vraiment assez peu de règles. Si tant est que tu connaisses le jeu de pli, mais aujourd'hui j'ai l'impression que dans la core community, la communauté core, tout le monde sait jouer, quoi.
Du coup, c'est sur les effets que t'es arrivé en fait, c'est ça?
Ouais, j'ai rajouté un ou deux effets de cartes. J'ai rajouté une couleur. J'ai rajouté les jetons. Quand tu perds, dans la version originale, quand tu perds, donc on joue chacun une carte, et le joueur qui perd le pli, il prend un jeton qui vaut un point dans la version originale du jeu. Et moi j'ai dit, allons plus loin, donnons des jetons qui vont en échange te donner des bonus. Et après là, je me suis dit, et si c'était encore plus imbriqué et que ces jetons on les mettait pas devant nous, mais qu'on les mettait sur le plateau central, sur un des lieux, et qu'on influençait ce lieu. Et là ça a donné le jeu, ça donne un jeu qui est assez, moi je trouve, assez exceptionnel, dans le sens où tout est très 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 imbriqué. On joue 13 tours, mais chaque carte a l'impression qu'elle est elle va être décisive,
qui le rend plus stratégique.
Incroyable. Moi c'est un jeu que j'aime beaucoup,
Avec un petit côté tir à la corde en plus, comme si avec plusieurs cordes, et puis t'es un peu attaqué sur un front, tu repars sur un autre, et en même temps t'as quand même capacité à rebondir un peu d'un front vers un autre.
Ouais, tu sais, il y a cet équilibre qui, je pense, est nécessaire. C'est le moment où je vais dire des choses. J'aime pas du tout les jeux abstraits. J'ai vraiment beaucoup de mal aux jeux abstraits, parce que je suis pas forcément très intelligent, ou je suis pas le plus intelligent. Et si j'ai la sensation que le jeu, il m'envoie le message, si t'es moins intelligent, tu vas perdre, je vois pas pourquoi je m'assiérai à la table, et je vois pas pourquoi je continuerai à jouer. J'ai pas besoin de ce genre d'expérience-là dans ma vie, tu vois. C'était important dans Lone Wolf de garder ce truc de, quand tu perds et que tu retournes un jeton, que tu prends un jeton, t'as cette possibilité-là d'avoir un jeton qui pourrait renverser la partie quand même, tu vois. Tu vois, j'ai une copine, je gagne toujours, Chloé, un petit message pour toi. Contre elle, je gagnerai toujours. Mais par exemple, j'ai un autre copain, Romain, qui est très fort en jeu de pli, je pense que je gagnerai jamais. Mais il y a toujours cet espoir, et ça j'aime bien, tu vois.
Avec la surprise de ses
mais
effets.
Mais oui, c'est agréable, la surprise dans le jeu.
Tu veux nous dire un mot sur tes prochaines sorties? Il y en a certaines qui sont annoncées là sur le festival. Moi, j'ai vu passer Daydream en particulier.
Un jeu avec l'incroyable Benoît Turpin et avec les non moins incroyables Luc et Maria de chez Disto Studio. L'idée derrière, elle est simple. C'était moi, j'adore le Sudoku, mais c'est un jeu qui se joue seul. Et je m'étais dit, comment on pourrait faire un Sudoku auquel on pourrait jouer tous ensemble? Ensuite, le jeu était né avec Benoît. Je sais pas si vous avez vu le jeu, mais si vous nous écoutez, allez voir la direction artistique du jeu, qui est juste, pour moi, une des plus belles que j'ai vues depuis très 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 longtemps.
Je suis d'accord avec toi.
C'est absolument incroyable.
Il y a des promesses visuelles d'un moment doux, d'un moment agréable. Ouais.
Ils ont fait le bon choix, parce que moi, je me souviens, moi, j'ai des parents qui ne jouent jamais, et on a un chalet à la montagne, et j'étais assez étonné lorsque je leur avais montré le proto à mes parents de ce jeu de Sudoku. Après le repas, ils voulaient toujours en refaire une. Ils voulaient toujours qu'on relance ces dés et essayer de placer leurs chiffres pour essayer de faire cette ligne. Alors, c'est un jeu de Sudoku et c'est très simple. Dans les lignes et dans les colonnes, si tu arrives à ne pas mettre deux fois un chiffre identique, tu vas marquer autant de points que la longueur de la ligne ou de la colonne. Mais si tu arrives à les mettre consécutifs, alors dégressifs ou congressifs, non, comment on dit ?
Progressif.
Et ben là, tu doubles les points de la ligne. Donc une ligne de 6, si tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, ben, ça vaut 12 points. Et donc, il y a ce truc de prise de risque, il y a ce truc très simple. Disto est venu apporter cette DA qui est juste, voilà, mon Dieu, quoi. Vous avez vu la boîte ? En plus, la boîte, elle est grosse comme c'est pas permis. Les paravents, ils sont magnifiques, ils sont généreux.
Est-ce que c'est pas contradictoire quand même avec la notion de prise de risque? Comme ça, moi, j'ai pas joué au jeu, mais j'avoue qu'en en entendant Caducé d'un côté, qui me parle de douceur et tout ça, et puis de l'autre côté, tu me dis ah, il y a de la prise de risque, du tout, ça me fait dissonant dans ma tête.
Moi, j'ai l'impression que c'est une promesse d'un moment un peu de réflexion, un peu personnelle, hein, ouais, que tu vas passer avec ton chocolat chaud, tes petits chamallows, parce que effectivement, ça rentre dans ce système de ce que tu attends du Sudoku, mais avec le petit plus en fait, hein, que tu vas mettre dans le jeu.
Oui. Moi, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs,
mais qui reste balisé en fait, qui reste dans quelque chose qu'on connaît, qui est rassurant et qui va bien avec la douceur et la rondeur en fait de ce qu'apporte l'édition, en tout cas dans sa DA.
Ouais, et d'ailleurs, effectivement, tu vois, même quand tu joues au Sudoku, il y a des personnes qui pourraient te dire non, moi je joue pas au Sudoku, c'est stressant parce que je vois des chiffres partout et quand j'en écris un quelque part, j'ai peur de faire une faute, etc. Et donc, effectivement, il y a un public pour tout et il y a une façon de voir les choses qui est propre à chacun. Donc, je pourrais entendre effectivement que ce truc de prendre du risque sur scorer plus, c'est pas un truc de détente, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que quand tu t'assois et que tu lances les dés à Daydream, c'est un truc un peu d'introspection, un truc avec toi-même. Okay. D'ailleurs, sur le stand, ils avaient prévu, alors je sais pas s'ils le feront, mais ils avaient prévu de mettre des casques sur, comme on fait nous maintenant, sur les oreilles des joueurs.
D'accord.
Pour, tu vois, parce qu'en fait, une fois qu'on a lancé les dés et que tout le monde regarde les dés au centre de la table, chacun fait son truc. Donc c'est très doux, hein, dans ce sens-là, effectivement.
Okay. Ouais, ouais. Mmh. Tu veux nous parler des autres sorties qui arrivent? Donc il y a Castle Riser et Last Lantern.
Donc ça, c'est deux jeux qui sont publiés par un éditeur taïwanais. Donc c'était mon ancien job avant de rejoindre Simon, chez qui je travaille maintenant. Donc j'étais chef de projet chez
Wonderful World.
Ouais, l'éditeur de Locomomo, qui est localisé par Blam en France. Mm-hmm. Et effectivement, il m'avait demandé, montre-moi tes jeux. Et ça lui avait beaucoup plu. Donc il avait dit, moi je voulais faire ces jeux-là. Donc c'est un peu bizarre, j'avais la double casquette. Mais entre-temps, j'ai quitté la compagnie. Donc moi, j'ai découvert avec vous l'ADA et des modifications sur le jeu. Et je les ai vus apparaître pour la première fois hier. J'ai vu Last Lantern, je connaissais pas le titre du jeu, j'avais pas vu les visuels. Donc je les ai découverts hier, tu vois, presque au même moment que toi. Mais j'espère que ça va être très bien et que ça va plaire tout ça.
Tu peux nous dire à peu près de quoi il retourne ?
Ouais, Last Lantern, c'est un jeu coopératif de poste de Poliomino.
OK.
Donc c'est très original dans le concept parce qu'effectivement, il y a un côté je pense que tu vas jouer ça, donc il faudrait peut-être que je joue ça, mais si tu penses que je joue ça, est-ce que je devrais pas jouer ça parce que tu penses que je joue ça, mais tu penses, tu vois, il y a ça.
Moi, j'aime beaucoup ça. En communication limitée, quoi.
Ouais, il y a ce truc que j'aime beaucoup dans The Mind, qui fait que The Mind est le plus grand jeu de l'histoire.
Ok, c'est dit.
On a le droit de dire ça ou pas?
Oui, t'as le droit, oui, de le dire. Droit.
Et l'autre jeu, donc Castle Razer, c'est la réponse à tiens, elle est bizarre cette forme de tuile. Et si on faisait un jeu avec? Tu sais, c'est des tuiles qui sont courbées. Si tu les poses côte à côte, elles forment une comment on appellerait ça? Une forme ronde comme le Colisée.
Un ovale?
Non, un rond.
Un cercle. C'est des portions de cercle.
Ouais, et ça fait une fortification à l'intérieur d'un village. Et si on faisait un jeu avec ça? Et si on posait ces tuiles les unes sur les autres et qu'on pouvait monter des murs et à l'intérieur on créait notre village et qu'en même temps on envoyait des loups attaquer les joueurs adverses. Et donc c'est un jeu qui est plutôt cool. Moi, j'ai un jeu que j'aime beaucoup. Je suis très très curieux de voir la réception du public parce que c'est plutôt une cible joueuse. Mmh. Ouais, mais c'est très simple, hein. Il y a 4 tuiles au centre, le premier joueur il en prend une, le deuxième joueur il en prend une, le troisième il en prend une, le dernier joueur il prend ce qui reste. On fait ça 12 ou 13 fois et puis la partie elle s'arrête. Mais entre-temps, quand on recouvre une tuile, c'est très cool parce que la tuile que tu prends, elle a des icônes dessus. Donc tu la prends, mais pas pour maintenant parce que c'est quand tu recouvres les tuiles précédentes que tu actives leurs effets.
D'accord.
Donc je prends, je pose en recouvrement, je déclenche ce que j'ai recouvert. Donc il y en a qui vont permettre de construire ton village, d'envoyer des loups sur les autres, d'améliorer ta défense. Puis on y va, c'est parti.
Donc ça, c'est géré en fait par les actions des joueurs ou des joueuses. C'est pas des événements extérieurs qui surviennent.
Ouais.
D'accord.
Ouais. Non, c'est vraiment ce que tu dis. Tu vois, quand tu joues à Acropolis et que tu recouvres une pierre.
Oui.
Bah c'est ça, mais sur toutes les tuiles.
D'accord.
Ouais, voilà.
Alors, Last Lantern, c'est avec Jérémy Ducré, c'est ça?
Jérémy et Grisha. Jérémy Ducré et Grisha. Grisha Germain.
Grisha est pas crédité sur BGG à la date où j'ai regardé.
Grisha, tu n'es pas crédité sur BGG à la date où on a regardé. On est désolé, mec.
Et Castle Razers, c'est en co-autorat avec Erwan Leminou.
Ouais, Erwan.
Alors lui, il est crédité à l'envers. Son nom et son prénom sont inversés sur BGG.
Mais oui, mais parce que... Alors, j'ai la réponse. Parce que l'éditeur taïwanais, il sait pas où est le prénom, où est le nom.
Eh oui,
il sait pas s'il s'appelle Erwan ou s'il s'appelle Leminou.
Bon, tu pourras aller leur dire du coup.
Et Erwan, c'est mon pote. Erwan, c'est mon pote quand j'arrive à Taïwan, quand je m'installe à Taïwan. Donc je prends 4 mois de cours de chinois et c'est mon copain de classe qui ne joue pas, mais qui est un garçon qui a plein d'idées, un breton en plus, ce qui n'enlève rien à son charme. Et c'est devenu un très très bon copain à moi avec plein d'idées. Et un jour, il m'a montré un truc et il m'a dit, allez, on s'aide, je t'aide. Et bah voilà, et le jeu est né de ça.
Ok.
Je crois qu'il y a d'autres jeux qui vont sortir, mais je suis désolé, je me souviens pas. Mais il y a d'autres jeux qui sortent que j'ai fait.
Et c'était pas encore sur BGG.
Oui, parlons des jeux qui sont sur BGG uniquement parce qu'il y a encore 2-3 projets. Et
d'accord, il y a d'autres choses qui pourraient encore arriver.
On va basculer sur ta nouvelle casquette, on va dire. On disait que tu étais désormais responsable de la création chez Simone. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce poste?
J'ai rejoint Simone le 1er juillet dernier parce que être auteur de jeu, ils ont cartonné vraiment, mais être auteur de jeu, ça reste un métier assez difficile. J'ai postulé chez Simone et puis le jour de mon interview, c'est trop rigolo, le jour de mon interview, je commence mon interview et le gars qui m'interview, il regarde mon nom et au bout de 2 minutes, il me dit, mais Anthony Perron, il me dit, ton nom, c'est pas le nom de courtisan, du jeu sur courtisan? Je dis, ouais. Et en fait, l'interview, elle était gagnée à ce moment-là parce qu'il cherchait quelqu'un qui avait des compétences en game design.
Quand tu dis interview, c'était ton rendez-vous,
l'entretien.
Ah oui, mon entretien d'embauche, excusez-moi, ouais.
Non, pas de problème.
Ouais, mon entretien d'embauche et j'avais gagné en fait à ce moment-là. Et donc, j'ai été recruté chez eux. À la base,
Ils sont basés aux États-Unis, non?
Non.
Non.
Alors, c'est compliqué, hein. La boîte, elle est listée au Stock Exchange à la bourse de Hong Kong.
Ok.
Et les deux CEO sont d'origine hongkongaise, donc sont nés à Hong Kong. Ils vivent en Thaïlande. Ça devient technique là. Et les headquarters sont à Singapour. Les bureaux sont à Singapour.
Ouais, donc Simone, c'est à la base, c'est l'éditeur qui a été connu. Il s'appelait, c'était Cool Mini Hornet à la base, je crois que c'est ça l'acronyme du coup. Hein.
Ouais, l'acronyme c'est Cool Mini Hornet. Vous le connaissez sûrement sous le Cool Mini Hornet, le CMON. Les Français, je crois, disent Common ou je sais pas.
Instinctivement, oui, t'as plus envie de dire Common, mais en fait,
Mais en fait, moi j'ai appris qu'on disait Simone.
Simone.
Ouais. Et pas S-I-M-O-N-E d'ailleurs, attention.
Non, on dirait Simon.
Ah, yes.
Et ça consiste en quoi alors d'être responsable de la création?
Alors déjà quand je suis embauché, je suis juste dev et commercial. Mais commerce, je suis nul, je suis un très mauvais commercial.
Ils s'en sont rendus compte?
Ouais, tout le monde s'en est rendu compte. Moi le premier parce que je l'avais pas fait, tu vois. Et surtout, je leur dis, moi j'appelle le CEO et je dis, mais moi j'ai des idées quoi. J'ai des idées pour vous parce que Simon ne fait que du Kickstarter. Et sporadiquement fait quelques projets de ci de là, par exemple le jeu de Julien Protière, Dream On, qui maintenant s'appelle Storybox. C'était un jeu Simon retail, ça veut dire en boutique direct, parce que Simon ne fait que du Kickstarter. Et voilà, comme je disais, quelques projets ici et là, comme il y avait aussi Victorian Masterminds qui n'avait pas été un financement participatif. Bon bref, mais en fait c'est jeté un peu ça et là, et si ça marche c'est bien, etc. Mais je crois pas que ce soit une stratégie viable sur long terme. Mais moi je donne mon avis un peu cash, tu vois, au board, au CEO, et ils me disent on te donne 2 semaines, et dans 2 semaines tu nous proposes un truc si t'as, apparemment t'as des idées toi. Et moi j'arrive 2 semaines après et assez peu de sommeil, tu vois, parce que ça m'a un peu stressé, mais c'est rigolo, j'aime bien ce genre de truc là. Et j'ai plusieurs idées de gamme de jeux et ils trouvent ça cool, ils me disent ok go. Donc je bascule ce qu'on appelle directeur de la création, je sais pas comment on dirait,
responsable d'édition, genre de choses.
Ouais, en gros mon job à moi c'est de faire en sorte que les jeux qui sortent à partir de SN prochain, donc les nouveaux jeux Simon qui ne seront que des jeux pour les boutiques directement, et une cohérence à tous les niveaux.
Une cohérence de gamme identifiable comme étant de la création interne de Simon.
Exactement, et qu'on se dise, Simon a un plan clair sur les X prochaines années et il ressemble à ça. Voilà, ça c'est mon job à moi chez eux aujourd'hui.
Pour recentrer en fait l'identité sur Simon en tant qu'éditeur.
Et pour venir chercher aussi un nouveau public, parce que moi c'est rigolo, je ne joue pas au jeu de Simon, j'ai pas envie d'acheter Zombicide, ça m'intéresse pas. C'est très personnel, attention.
Bien sûr.
Je mets pas 100€ dans un jeu, j'ai pas les joueurs, j'ai pas le temps, c'est pas ma cible. Et d'ailleurs, c'est sûrement ce qui fait de moi quelqu'un d'assez intéressant à l'intérieur de ce système-là, parce que du coup mes appétences elles sont différentes. Moi j'aime les jeux à 12 balles, j'aime les petites expériences, tu vois, j'aime ce genre de choses-là. Et donc c'est ce qu'on va proposer à partir des scènes prochains. On a 3 jeux qui sortent, mais ma position elle est aussi différente, elle va un peu plus loin que ça, parce que je gère aussi alors il y a plusieurs bureaux, mais surtout le bureau japonais, parce que Simon a des branches un peu partout. Il y a une branche à Turin, il y a une branche au Brésil, il y a une branche en Thaïlande, à Guangzhou en Chine, et une à Tokyo qui s'appelle Japan Brand, et qui à partir de cette année commence aussi à sortir des jeux japonais. Et donc là, notre ligne éditoriale c'est on fait du jeu japonais par des auteurs japonais avec des illustrateurs japonais. Donc je passe un sacré temps de ma vie au Japon, notamment en amont de BGBE, qui est un gros festival Osaka, un petit festival Osaka, et du TGM, Tokyo Game Market, qui est le gros festival de Tokyo, aller scouter pour des jeux. Donc une partie de mon job c'est de faire du scouting, c'est-à-dire
du sourcing,
pour les jeux,
aller repérer des jeux que tu pourrais éditer quoi.
Ouais, ça c'est excitant, ça c'est super.
Et t'as quand même pu aller finalement jusqu'au Japon, c'est ce que tu souhaitais au départ commencé à partir.
Ah ben ouais, et aujourd'hui, tu vois, je passe 3 mois par an au Japon. Donc c'est assez fou, tu vois. Ouais, il y a un truc c'est agréable de se sentir avancé, je trouve, dans la vie. C'est agréable de se sentir poussé en avant dans ce que t'aimes faire, tu vois. Et j'aime bien les résonances. Moi, je trouve que elles sont jolies, les résonances dans nos vies personnelles, tu vois. Je me souviens, moi, à 2 ans et demi, j'avais une Master System dans les mains. C'est une vieille console de jeu, tu vois, j'ai 36 ans et j'ai passé ma vie à jouer aux jeux vidéo, tu vois. La première fois que j'ai vu une Dreamcast en boutique de jeu en 1999, j'ai pleuré, j'avais les larmes aux yeux dans la boutique de jeu, parce que je trouvais que c'était plus beau que la vraie vie, tu vois. Je trouvais que Sonic Adventure c'était plus beau que la vraie vie, tu vois. J'étais un peu fou, bon bref. Et je me souviens, mon père est charpentier, j'étais charpentier avant d'être game designer aussi. Quand j'étais petit, j'allais à l'atelier de mon père et je fabriquais des fausses consoles de jeu en bois ou en carton. Donc je prenais des morceaux de bois et des clous et je faisais des fausses manettes de jeu et des faux écrans et je faisais semblant que je jouais, tu vois. Je faisais du game design avant l'heure, tu vois. Je me faisais des petits jeux, tu vois. Et je trouve qu'elle est jolie, la résonance avec le présent, où j'ai pas fini dans le jeu vidéo, mais j'ai fini dans quelque chose qui en est très proche. Et je trouve que c'est joli, tu vois, de voir, depuis très longtemps, ça se profile et il y a une résonance entre le passé et ce que t'es en train de vivre. Ça, je trouve ça touchant. Du coup, je suis vraiment parti loin. Désolé.
Non, c'est aussi ce qu'on aime entendre. Je pense pas que tu me contredises, Cyrus, là-dessus.
Tu sais, sais, c'est la raison pour laquelle j'aime un auteur. Je sais pas si vous l'avez interviewé, Romain Katerdjian.
Non, jamais.
Mais c'est la raison pour laquelle je pense que c'est un des mecs avec une des personnes avec lesquelles j'aime le plus discuter de jeux de société. C'est parce que on essaye toujours, lui et moi, de reconnecter les fils de la raison pour laquelle on a choisi ce jeu-là, cette thématique-là. Mmh. Et on essaie toujours d'aller jusqu'au fond de pourquoi on fait ça maintenant, tu vois. Qu'est-ce que ça raconte sur l'homme que je suis en ce moment? Qu'est-ce que ça raconte sur la femme que je suis en ce moment? Qu'est-ce que ça raconte sur l'être humain que je suis en ce moment? Donc, en quoi ça résonne avec mon histoire passée, mes problématiques personnelles? Si tu regardes mes jeux et que tu me connais, il y a tout qui transpire de ouf, quoi. D'accord. Tu vois, dans Dive, il y a toutes mes problématiques personnelles qui transpirent. Il y a toutes les joies chez moi, en moi, qui transpirent. Mais vraiment, quoi. Et ça, ça se voit pas, hein. Mais c'est incroyable. Je trouve ça joli, mais je pense que c'est pareil dans tout ce qu'on fait, dans les programmes que vous faites. Si on regardait les programmes de proxy jeux au fil du temps, on verrait aussi à quel point il y a des trucs personnels qui transpirent. Mais ça demande un travail d'introspection qui est phénoménal.
Bien sûr.
Qu'on n'a pas envie de faire ou qu'on a envie de faire, tu vois. Moi, que j'adore faire parce que j'ai l'impression que ça donne du sens à ma vie.
Ouais, je comprends.
J'aime l'idée de donner du sens.
Écoute, c'est très beau.
Oui.
J'ai envie de qu'on conclue là-dessus.
On va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Anthony.
Merci beaucoup.
Merci à vous parce que j'ai découvert le jeu de société avec vous. Je faisais les trajets pour aller à la montagne et je bouffais du podcast à l'époque quand j'ai découvert le jeu, donc en 2018, début 2017-2018, et j'ai écouté tout en boucle et tout.
Mais écoute, la boucle est un peu bouclée aujourd'hui.
Ouais,
hein,
une partie de la spirale. Hein. Tu vois, ça ressemble plutôt à ça.
C'est ça.
Cette spirale de micro là.
Chères auditrices, chers auditeurs. Si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeu.fr. Proxy avec un I et jeu avec un X. On se retrouve très vite sur Proxy Jeu pour une autre interview ou un autre format. À très bientôt et surtout,
jouez bien.